Voilà, nous allons avoir 3 jours de séminaire intitulé « Présenter Jésus ». Et nous commençons par lire ce que lui-même a dit dans Luc 19, 10. Il a dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». C'est très important, c'est ça notre verset principal pour ces 3 jours. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il le dit clairement. Et donc, ce qui fait que quand nous allons lire d'autres instructions qu'il a pu nous donner, par exemple dans Matthieu 28, 18 à 20, nous devons tout comprendre par rapport à ce Luc 19, 10. Dans Luc 19, 10, il dit clairement que c'est lui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais dans d'autres passages, il nous demande d'aller le faire. Donc, ce que nous pouvons comprendre en rassemblant tous ces passages, c'est que c'est le Seigneur en nous qui continue toujours son travail de venir sauver, chercher et sauver hein, ceux qui étaient perdus. C'est pourquoi nous avons dit « présenter Jésus ». C'est-à-dire l'instrument que nous sommes, que tu es, l'instrument, les instruments que nous sommes, sommes là pour présenter Jésus. Le dimanche, on verra que nous sommes là même pour le porter, quoi, pour qu'il soit visible auprès des autres. Mais c'est ça l'idée, c'est Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà l'objectif du Seigneur. C'est très important parce que la religion nous a beaucoup égarés, nous a fait souffrir, nous avons voulu faire les choses par nous-mêmes, mais ce texte nous dit que c'est le Fils de Dieu lui-même en personne qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et donc nous voulons le laisser travailler et afin que le maximum soit sauvé. Nous lisons aussi Ésaïe 42, 1 à 7. Notre frère va nous lire cela. Ésaïe 42, 1 à 7. Comprendre qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu faire?
Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi.
Amen, amen.
Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres.
Amen, amen. Voilà la mission du Seigneur fixée depuis Ésaïe. Hein. C'est depuis l'Ancien Testament. J'ai choisi mon serviteur. Mon serviteur viendra libérer les captifs. Hein, il est écrit, il ne brisera pas le roseau cassé. Les gens qui souffrent, les gens qui sont déjà abattus, le Seigneur ne vient pas encore pour les abattre. Mais il vient pour les relever. Le Seigneur vient pour sauver. J'aime la partie qui dit, même les îles, il n'y a aucun territoire qui peut être ignoré. Même les îles espéreront en sa loi. Le Seigneur est vraiment venu sauver toute l'humanité. Parce qu'à l'époque où tout ça est écrit, les îles sont considérées comme si on allait à la lune. Il y a des îles vraiment lointaines, les gens en entendent parler, mais c'est comme si c'était la lune. Et on dit dans ce verset, même les îles espéreront en sa loi. Le Seigneur Jésus est vraiment, sa mission, c'est chercher, sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui souffrent. J'étais établi pour être une lumière pour les nations. Voilà pourquoi le Seigneur est venu être une lumière pour les nations, les attirer, les éclairer pour montrer leurs failles et les attirer à son Père, les sauver. Bien-aimés, on est obligé de parler du salut. Parce que comme c'est écrit dans Ésaïe 42, Dieu dit lui-même sur Jésus, « J'ai été établi pour le salut. » Vous comprenez que le salut, c'est fondamental dans l'histoire entre Dieu et les hommes. Et si Jésus est venu sur terre, il a été établi pour le salut. Donc c'est fondamental. C'est vrai, ce qu'on va voir là. Certains donnent l'impression qu'ils n'en ont pas besoin. Mais nous, on ne doit pas suivre ça. Nous, on doit suivre la parole qui nous dit que Jésus est venu pour le salut. Si Dieu a envoyé son Fils pour ça, c'est qu'il, pour lui, c'est capital que l'homme soit sauvé. Même si l'homme est inconscient, nous, nous devons regarder à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu voit la souffrance qui attend l'homme qui ne reçoit pas Jésus. Nous ne devons pas regarder à ce que l'homme pense à son amour. On est obligé de parler de salut. Les gens souffrent. Les gens ne sont pas bien. Non seulement il y a des souffrances qu'on connaît, les souffrances habituelles, divorce, maladie, licenciement, manque d'argent, emprisonnement injuste. Il y a toutes sortes de souffrances. Déjà, ces souffrances-là tuent la vie des gens. Mais il y a encore d'autres souffrances plus graves. Dans tous les cas, Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé pour qu'il commence à passer son temps à pleurer, à souffrir, à être instable, et à détruire l'autre. Tout ça, c'est la souffrance. Les hommes souffrent, bien-aimés, les hommes souffrent. Les hommes souffrent. Peut-être que nous ne les remarquons pas parce que nous ne sommes pas à leur place. Mais les humains souffrent. Et Dieu, qui est le Créateur, ne peut pas laisser faire comme ça la souffrance dans l'humanité, laisser faire la désolation dans l'humanité. C'est pourquoi il est écrit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu libérer les malheureux. Il n'éteindra pas le roseau cassé. Beaucoup de gens sont comme des roseaux cassés par des problèmes de la vie. Il ne brisera pas le roseau cassé plutôt. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il y a des gens qui n'ont plus qu'un faible espoir. Si ce faible espoir disparaît, ils se suicident. Et il est écrit que Jésus est venu pour ces gens-là. Les gens souffrent. Nous allons prendre quelques passages bibliques qui montrent des exemples de souffrance. Nous lisons par exemple dans Marc 10, 46 à 53. Marc 10, 46 à 53.
Marc 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin.
Amen. Voilà un exemple de souffrance. Quelqu'un qui est aveugle, c'est de la grosse souffrance. Tous les jours, c'est de la souffrance. Mais le problème, c'est que nous, pensons que les hommes sont différents. Aux yeux de Dieu, les hommes souffrent tous. Nous prenons des exemples flagrants pour l'intelligence humaine. J'ai dit au début, mettons-nous à la place de Dieu. C'est ça le but, c'est de se mettre à la place de Dieu. Ce n'est pas de rester dans son raisonnement, parce qu'il est écrit dans Isaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est Dieu qui parle. Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Nous, on va dire, « Ah, Bartimée, il souffre. » Mais oui, mais toi aussi, tu souffres. Mais peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Peut-être que tu t'anesthésies avec des choses. Mais il y a des souffrances. Et on prend des exemples flagrants et on entend cet homme crier, « Jésus, sauve-moi !» Et Jésus, il vient, malgré le découragement sur cet homme que voulait installer les gens qui entouraient Jésus. Je dis cela et je vais le redire encore pour nous faire comprendre qu'on peut être avec Jésus et mal le comprendre. Et les gens qui entouraient Jésus ne comprenaient pas Ésaïe 42. Le Fils de Dieu a été établi pour le salut. Lui, il veut, ah, mais les gens disent, arrête de les perturber. Mais combien de fois les gens ont voulu empêcher le salut que Jésus pouvait donner? Parce qu'ils étaient dans une logique religieuse. Dans une logique parfois égoïste où tu es sauvé et c'est bon. Moi, je suis sauvé. J'appartiens à la classe des élus, à la classe des élites. Mais tu oublies avec qui tu marches. Tu oublies qui est ton maître. Lui, c'est son boulot, c'est sa vie que de sauver les gens. C'est ce que je veux faire introduire en nous, bien-aimés. Que c'est ça l'intérieur du Seigneur. Il a été établi pour le salut. Ce n'est pas pour être un champion et battre tout le monde en intelligence ou je ne sais pas en quoi, mais c'est pour donner sa vie, pour que les gens soient sauvés. Parce que les gens souffrent. Les gens souffrent. Et Bartimée souffrait. Ne pas voir, être aveugle, c'est de la souffrance. Mais Jésus passait par là pour le sauver. Nous lisons Jean 5, 1 à 16.
Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat.
Amen. Parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Ces gens-là n'avaient pas la notion du salut de Dieu. ils n'avaient pas la notion du jour du sabbat selon Dieu, qui était un jour consacré à la gloire de Dieu. Et Jésus faisait ces choses-là le jour du sabbat pour faire comprendre aux gens que c'est le jour où Dieu se glorifie. Mais comme tous ces gens-là étaient dans la religion, ils n'étaient pas dans la notion salut du Seigneur. Une parenthèse, avant que je n'oublie. Vous savez, on a lu dans Ésaïe 42 que le serviteur de Dieu ne criera pas dans les rues. Vous savez, bien-aimé, et lui-même, le serviteur de Dieu, a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Pendant des années, on a cru qu'il fallait remplir les stades pour montrer vraiment qu'on veut sauver les gens, pour chercher vraiment à sauver les gens. Alors qu'Ésaïe 42 dit, mon serviteur restera simple. Quand on lit l'histoire du Seigneur, bien-aimé, il y a des moments où on peut parler de foule quand il multiplie les pains. Mais c'est une foule qui ne vient pas dans une logique spectaculaire. C'est une foule assoiffée. Ce n'est pas une foule agitée, comme on entend à gauche, à droite, comme on entend que les gens veulent faire des choses. C'est une foule assoiffée au point que le Seigneur a dit, il les voyait comme des brebis sans berger, il était attristé. C'est pas le même genre de foule. Parce que avec Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui faisait, qui attirait les gens. Ce n'est pas une histoire. Je n'ai pas dit que tout le monde était parfait dans la foule, mais c'est pas la même soif, c'est pas la même logique, c'est pas la logique de la pub et de l'extraordinaire pour épater les gens. Non. Quoique Jésus faisait le miracle, les gens avaient soif de Dieu quand ils le voyaient. Et je reviens sur ce texte qui nous montre, une fois de plus, des gens qui contredisent Jésus. Mais pourquoi tu sauves? Mais lui, on a lu dans Ésaïe 42, il a été établi pour le salut. C'est sa vie. Comprenons, bien-aimés, que si on veut vraiment servir Dieu pour sauver les gens, il y aura des incompréhensions. Les gens ne comprendront pas, mais pourquoi? Vous savez, je vous ai raconté l'histoire d'un groupe de missionnaires qui s'était installé en Afrique du Sud et pour sauver les gens. Et pendant 12 ans, rien ne s'était passé, presque pas de conversion d'ailleurs. Et après 12 ans, Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires. Et les journalistes sont venus les voir pour leur dire, les journalistes chrétiens, je veux dire, c'est des chrétiens que j'appelle journalistes. Ils sont venus les voir pour leur dire, ben, avec tout ce que Dieu fait avec vous, il faut vous faire connaître. Ils ont dit non, nous restons. Donc ils voulaient les inviter en Allemagne, en France, en Angleterre pour qu'ils se fassent connaître. Ils ont dit non, Dieu a commencé à nous utiliser ici, c'est ici que nous travaillons et nous restons ici. Nous restons simples. Le but de Dieu, c'est de sauver. Et notre séminaire, c'est quoi? C'est présenter Jésus, parce que c'est Jésus qui est le sauveur. Quand Jésus rencontre quelqu'un, la vie de la personne change. On voit cet homme qui était désespéré. Désespéré. Il attendait que l'eau bouge. Mais c'est le Fils de Dieu qui vient le rencontrer et son salut est manifesté. Bien-aimé, aujourd'hui, nous devons comprendre que Jésus, le Fils de Dieu, est toujours en action. Il veut encore apporter le salut aux hommes. Il veut encore changer les hommes. Il veut encore les sauver parce que les gens souffrent. Comme nous l'avons dit au début, il y en a qui sont conscients de leur souffrance. Bartimée, il a crié, « Jésus, fils de David !» Il souffrait, il en était conscient et il voulait s'en sortir. Il y en a qui souffrent, qui sont plus ou moins conscients. Tout le monde n'est pas conscient de la même manière et tout le monde n'a pas soif de délivrance aussi de la même manière. Nous ne devons pas regarder à ça. La preuve, est-ce que cet homme a cherché Jésus? Il n'a pas cherché Jésus. Il était alité. C'est Jésus qui est venu vers lui. Bien-aimés, entrons dans la profondeur. Luc 19, 10 dit quoi? le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc Dieu peut t'amener dans un boulot parce qu'il veut sauver quelqu'un. Il t'amène pendant 2 ans, pendant 3 ans, dans un travail, dans une entreprise. Ce n'est pas pour toi, parce qu'il veut rencontrer. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Cet homme était alité, ne cherchant pas, attendant presque que le salut tombe sur lui, parce que voilà, il ne pouvait pas marcher pour tomber, plonger dans l'eau. Mais Dieu est venu le chercher. Une fois de plus, bien-aimé, Jésus a été établi pour le salut. Il fera son job, il fera son boulot. Ce n'est pas toi qui va prendre sa place. Il fera son boulot. Parfois de la manière dont tu n'attends pas, mais il fera son boulot. Cet homme-là n'a pas crié, n'a pas cherché comme Bartimée, mais le Seigneur est venu le trouver parce qu'il a été établi. Ésaïe 42 pour le salut. Bien-aimé, ne soyons pas distraits. Si tu te dis chrétien, rappelle-toi que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pourquoi tu vis? Si tu vis pas pour cet objectif-là, tu t'es trompé de maître. Tu t'es trompé de maître. Nous allons lire Luc 19, 1 à 10, justement d'où vient le fameux verset 10.
Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celle-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. »
Amen. Nous voyons Zachée perturbé. Vous savez, comme on a dit, il y a des gens, on ne peut pas mesurer la conscience des gens. Il y a des gens qui donnent l'apparence que ça leur importe peu, Dieu, le salut, ou bien même être heureux sur terre. Nous, on ne peut pas tout savoir. Seul Dieu sait tout. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous baser sur ça pour dire non, tel coin on n'évangélise pas, parce que c'est des mafieux, c'est des drogués, ils ne veulent pas. On ne peut pas choisir, on doit être des instruments de Dieu. C'est Dieu qui nous utilise. On ne peut pas choisir en disant, oh mais c'est un pasteur. Qu'est-ce que moi je peux lui dire? Mais si Dieu te montre que c'est un païen pasteur, c'est qu'il veut t'utiliser, c'est toi. On doit être utilisé, pas choisir. Ce n'est pas à nous d'utiliser le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui doit nous utiliser. Et les observateurs pouvaient penser que Zachée n'avait pas besoin d'aide, qu'il était riche, qu'il était heureux, qu'il était fort, ami des Romains, impuissant du pays. Or, Zachée, lui, n'était pas bien. On peut avoir les moyens. on peut être physiquement bien, mais n'être quand même pas bien. Avoir soif de salut. Les gens souffrent. Vous, vous pensez que Jésus est passé là pour qui? Pour lui. Parce qu'il a mangé chez lui le soir. Il est passé pour Zachée, mais si c'était nous, on n'allait pas passer pour Zachée. On allait considérer que ben, il est riche, il est bien, je vais aller voir les pauvres. Non. Pour le Seigneur, Zachée était pauvre parce qu'il souffrait. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est qu'il souffrait. Bien-aimés, regardons le salut au regard, selon le regard, avec les regards du Seigneur. Avec le regard du Seigneur. Et voyez comment Jésus a bravé la honte. J'aime beaucoup Ésaïe 42. Hein. Donc, est-ce qu'on peut lire la partie où il dit il ne va pas se décourager. Jésus va chez un pécheur. Et tout le monde parle. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais lisons Ésaïe 42 où il dit mais il ne va pas se décourager.
Ésaïe 42, verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point.
Amen. Il ne se découragera pas, c'est ça son objectif. Il faut que les gens soient sauvés. Les gens vont parler, les gens vont le diminuer, les gens vont se moquer. Mais lui, il va aller jusqu'au bout. Il faut qu'il sauve Zachée. Voilà, quitte à manger avec lui. Les gens vont sortir toutes sortes de théories, mais il mange de la nourriture préparée avec de l'argent volé. D'accord, mais Zachée doit être sauvé. Parce que c'est ça, pour cela que je vis sur terre. Voilà ce que Jésus pouvait leur répondre. Et il a leur, d'ailleurs, il leur a dit, le médecin vient pour les malades, il ne vient pas pour les bien portants. Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. J'aime ce qu'un serviteur de Dieu avait l'habitude de dire, il y a des gens qui veulent tout faire d'une manière correcte, mais finalement ils ne font rien. On veut être correct, mais parfois, qu'est-ce qui est correct? Sauver une âme ou fouiller une maison? Là, à l'époque de Jésus, qu'est-ce qui était correct? C'est de ne pas entrer chez Zachée. Mais selon Dieu, ce qui était correct, c'était quoi? C'est d'entrer pour sauver Zachée. Amen. Comprenons à qui on a affaire. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous voyons, bien-aimés, on a lu tout ça pour nous faire comprendre quoi, qu'il y a plusieurs situations de souffrance sur terre. Que ce soit des souffrances humaines terrestres, comme Bartimée aveugle, comme le chômage, comme des problèmes de famille. Il y a des souffrances terrestres qui sont de grosses souffrances. On ne peut pas les négliger parce que chacun les vit en sa manière. Ce n'est pas parce que toi, ça ne te fait rien que ça ne fait rien à l'autre. Ça ne fait rien à l'autre. Les hommes souffrent. Les hommes souffrent. Et dans ces souffrances-là, les réactions ne sont pas identiques. Il y a des gens qui réagissent en cherchant Dieu pour la solution. Il y a des gens qui sont devenus fatalistes. Ils disent que ah, ben, c'est fini, c'est comme ça. Ils sont nés pour souffrir. Il y a des gens, c'est au milieu, on ne sait pas trop. Ils ont tout. Ils n'ont pas les souffrances telles qu'on les décrit, mais ils ne sont quand même pas bien. Ils ne sont quand même pas bien. Donc, Zachée n'avait pas les souffrances des autres là, mais il n'était quand même pas bien. Donc, pour dire que le bonheur n'est pas que matériel, n'est pas que lié aux choses visibles. Ça peut être à l'intérieur, le vide. Combien de gens dont on a entendu les témoignages ne disent pas que malgré le fait qu'ils avaient tout, il y avait toujours un vide. Ils n'étaient pas bien. Donc pour Dieu, même un homme comme ça souffre. Même s'il est millionnaire, il a tout. Mais le fait qu'il souffre dans son cœur, il n'est pas. Pour Dieu, il souffre. Nous, on va dire, mais il est béni, il a tout. Mais non, pour Dieu, il souffre. Il a un problème. Maintenant, comme nous venons de le dire, tout le monde ne cherche pas Dieu d'une manière officielle. Il y en a qui cherchent d'une manière officielle, il y en a qui cherchent dans le cœur, il y en a qui se lamentent seulement, il y en a qui sont silencieux. Mais pour Dieu, cela ne fait pas de différence. Tout le monde souffre et il a envoyé son Fils pour sauver tout le monde. Maintenant, c'est la réponse qui est différente selon les individus. C'est ce qui fera que certains iront en enfer. Mais Le Fils de Dieu est venu pour tous les hommes, parce que tous les hommes souffrent. Mais là, nous avons parlé en grande partie des souffrances, qu'elles soient psychiques ou matérielles, mais elles sont quand même humaines, elles sont terrestres plutôt, mais nous allons parler de la plus grosse souffrance, c'est de vivre l'éternité en enfer, loin de Dieu. Bien-aimé, même quand quelqu'un est millionnaire, milliardaire, comme le Seigneur a dit, si tu perds ton âme, à quoi ça sert dans Luc 12 à l'homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Bien-aimé, ça doit nous faire réagir. La souffrance de l'enfer doit nous faire réagir, comprendre pourquoi Jésus est venu. Nous lisons Luc 16, 18 à 31.
Luc, chapitre 16, versets 18 à 31. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait.
Voilà, bien-aimé, un homme qui se retrouve dans la souffrance éternelle. C'est une grosse souffrance. Vous savez, la souffrance terrestre a la même origine que la souffrance éternelle, c'est le péché. C'est à cause du péché. C'est pourquoi nous devons présenter Jésus, parce que c'est Jésus qui est venu enlever le péché. Ce n'est pas moi, ce n'est pas quiconque humain, c'est Jésus qui est venu enlever le péché. Mais la différence avec la souffrance que vivait, entre la souffrance terrestre et la souffrance dans l'éternité, c'est que l'autre souffrance est éternelle. Vous savez, éternelle, ça veut dire que ça ne s'arrête pas. C'est grave. C'est grave. Nous devons réfléchir à ça. Une souffrance qui ne s'arrête pas. Voilà la réalité de l'enfer. Et cet homme était riche. Il avait tout. Mais est-ce que vraiment il était heureux? Parce qu'on peut dire, mais ces gens-là sont heureux. En réalité, ils ne sont pas heureux parce que je vois mal quelqu'un qui est heureux et qui va refuser. C'est écrit au verset 21, « Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. » Donc, le riche était dur au point que le pauvre qui était à ses côtés ne pouvait pas se nourrir. Est-ce que ce riche-là était vraiment heureux? C'est comme si tu es riche, tu décrètes que personne ne doit respirer à 10 mètres de ta maison. Qu'est-ce qui t'embête que les gens respirent l'air gratuit à 10 mètres de ta maison? C'est que tu es malheureux en toi-même. Les chefs d'entreprise, les politiciens qui mentent, qui sont riches, mais ils ne sont pas heureux. Ils mentent. Quelqu'un qui ment pour être riche, il n'est pas heureux. Les hommes d'affaires qui écrasent les ouvriers, les salariés, ils ne sont pas heureux. Cet homme avait beau être riche, mais il n'était pas quand même bien. Mais comme nous l'avions dit, certains cherchent Dieu, d'autres ne cherchent pas. Lui n'a pas cherché, il était là. Il était au courant. Mais il a préféré vivre sa vie, comme s'il était maître de son souffle. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu ne fait pas de différence. Il nous demande, il nous dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il ne fait pas de différence. Il nous demande d'être les témoins de Jésus, de présenter Jésus à tout le monde. Parce que tout le monde souffre d'une certaine manière. Que les gens soient conscients ou pas, avec des degrés différents, ça ne change pas aux yeux de Dieu la teneur de la souffrance de l'homme. Pour Dieu, l'homme souffre, il doit être sauvé. S'il est conscient à 15%, il doit être sauvé. Il est conscient à 80%, il doit être sauvé. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir, il a créé pour le salut. Dieu veut être avec les humains dans la joie, au ciel, au paradis. C'est le péché qui a tout gâté. C'est ce qui est écrit dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les souffrances qu'on a décrites précédemment, terrestres, elles sont dues au péché. La souffrance éternelle, c'est dû au péché. Quand on dit privé de la gloire de Dieu, c'est cette privation de la gloire de Dieu, c'est ce manque de la gloire de Dieu qui produit tout le reste. Vol, viol, meurtre, injustice, jalousie, c'est le fait d'être privé de cette gloire-là qui a attiré toute la puissance du mal et de Satan. C'est cela. Et l'éternité, c'est quoi en enfer? C'est définitivement privé de la gloire de Dieu. C'est plus grave encore. Nous devons en tenir compte pour vivre une vie qui fasse que Jésus soit présenté à chacun. Je dis bien Jésus soit présenté. Pas que nous, on cherche à faire des choses pour obtenir des résultats, mais il faut présenter Jésus. On a, dans Jean chapitre 1er, Philippe voit Nathanaël, il lui dit, on a trouvé le Messie. Celui qui avait été promis depuis longtemps. Nathanaël a voulu faire des complications. Philippe lui a dit, viens toi-même voir. Nous devons laisser Jésus convaincre les gens. Nous, on doit être des instruments. Ce que Dieu nous fera sortir de la bouche, on sort. Ce que Dieu nous fera faire comme acte d'amour et de bonté, on le fait. Mais c'est Jésus qui convaincra. Si Jésus a décidé de faire un miracle pour attirer quelqu'un, c'est Jésus qui le fera. Nous, on ne doit pas exiger de Jésus le miracle pour que la personne change. Vous savez, il y a des gens qui se sont convertis juste parce qu'ils ont vu que les chrétiens qui les entouraient étaient déterminés à rester purs. Ils ne se sont pas convertis parce que les chrétiens qui les entouraient étaient riches. Parce que parfois, on se dit, mais Dieu ne nous bénit pas. Comment les gens verront que nous avons la gloire de Dieu et qu'ils viennent à lui par la suite? Non! Dieu, Jésus fait comme il veut. Nous, on n'est que des instruments. Et j'ai entendu des témoignages. Quelqu'un qui dit, Mais ces gens-là, ils étaient tellement dans l'amour, malgré le mal que je leur faisais. Et petit à petit, je me suis approché du Seigneur et je me suis converti. Il y en a qui ont dit, je n'ai pas compris, il était malade, il a été guéri. Et en m'approchant, j'ai compris que c'était Jésus, je me suis converti. Chacun, Dieu fait comme il veut. Parfois, c'est notre persévérance qui va faire que les gens se convertissent. Notre persévérance à être dans la vérité, malgré les souffrances, malgré la prison injuste. Et quand les gens voient ça, ils changent, ils se convertissent. Parfois, c'est l'amour. Dans tous les cas, soyons dans la disposition à laisser, à présenter Jésus aux autres, selon les moyens qu'il nous donne en ce moment-là. Et comme je disais, le péché est à l'origine de tout ce qu'on voit comme souffrance et désordre. Romains 6, 23 le dit aussi, le salaire du péché, c'est la mort. Donc privé de la gloire de Dieu, la terre privée de la gloire de Dieu, il y a toutes sortes de souffrances, mais Dieu n'est pas heureux de voir ces souffrances-là. Il veut sauver les hommes. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Vous savez, c'est pourquoi Jésus est la réponse, parce que Jésus vient régler le problème de la souffrance de l'homme. Qu'elle soit terrestre, qu'elle soit éternelle, c'est Jésus qui vient régler ça, parce que le problème de la souffrance de l'homme, c'est le mal, c'est le péché. Et Jésus, à la croix, est venu porter tous ces péchés-là, afin que les gens qui vont croire en lui soient sauvés. D'où l'obligation de présenter Jésus. Ce n'est pas une église qui a porté le péché de quelqu'un. Ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus. D'où l'obligation d'amener les gens à un face-à-face avec Jésus. Qu'est-ce qu'ils choisissent comme ce face-à-face à la croix? Le voleur à côté avec Jésus. Un autre voleur aussi. Il y a eu double face-à-face. Il fallait faire un choix. Il y a un qui a fait son choix. Jésus, sauve-moi. Voilà, aujourd'hui, il y a un face-à-face avec Jésus. Qu'est-ce que tu choisis? Si tu as déjà choisi le Seigneur, comprends aujourd'hui que le Seigneur a été établi pour le salut. Et lui, quand il s'en va, il te demande d'être son témoin, c'est-à-dire d'être lui-même pour continuer à être un véhicule que Jésus, dont il va se servir pour continuer l'œuvre du salut. C'est pour cela que Dieu l'a établi et il te fait honneur d'être son collaborateur, son serviteur. Et nous lisons Ésaïe 53 qui nous montre comment... J'ai oublié de donner au bien-aimé de la caméra ce passage, mais c'est important qu'on lise ce passage, Ésaïe 53, qui montre comment Jésus a réglé le problème du péché. Il a réglé le problème de la souffrance de l'homme en prenant la place de l'homme, en prenant les souffrances de l'homme sur lui.
Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables.
Amen. Est-ce que vous savez que le suicide est un péché? Le suicide, c'est un péché. Hein? Mais là, c'est écrit, il s'est livré lui-même à la mort. Réfléchissons, bien-aimés. C'est que ce n'est pas le suicide. Il a vraiment... Parce que pourquoi ce n'est pas le suicide? Parce que le suicide est un péché. Mais pourquoi il s'est livré? Parce qu'il pouvait empêcher ça. Donc, il s'est laissé faire. C'est pourquoi on dit « il s'est livré ». Parce que ça donne l'impression que c'est quelqu'un qui se donne la mort. Non, ça veut dire qu'il pouvait refuser. Mais il a laissé faire. Ça l'humiliait, ça le déshonorait. Mais il fallait que les hommes soient sauvés. On appelle ça le travail de son âme. Il a crié « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais il fallait qu'il en soit ainsi pour que toi et moi soyons sauvés. C'est pourquoi, bien-aimés, ne cherchons pas une quelconque... Je parle à moi-même. Hein, ne cherchons pas une quelconque force personnelle extérieure pour convaincre les gens ou pour se dire « Tiens, notre Dieu est le Tout-Puissant. » Comme ce fut les guerres d'autrefois se faisaient. Est-ce que les guerres ont changé les nations, les guerres entre Israël? Dieu s'est glorifié, non? Mais est-ce que ces nations-là se sont converties? Non. Elles ne se sont pas. Ces nations-là ne s'en sont pas converties. Ne cherchons pas un élément de supériorité par rapport aux choses de la terre pour se sentir que, se sentir être dans la vérité. La vérité est simple. Il n'y a que Jésus seul qui a donné sa vie pour sauver l'humanité. Seul Jésus. Aujourd'hui, dans notre soirée, nous voulons insister sur ce face-à-face avec Jésus. Pour ceux qui n'ont pas encore vraiment donné leur vie avec le Seigneur, qu'est-ce que vous faites de ce face-à-face-là? Qu'est-ce que vous faites de ce face-à-face-là? Mais pour ceux qui ont déjà donné leur vie, nous voulons qu'on s'enracine dans la vérité que seul Jésus est le salut. Parce que seul Jésus a donné sa vie. Il a souffert. Le châtiment qui reposait sur nous est tombé sur lui. Seul Jésus est la vérité. Vous savez, beaucoup de gens ont régressé concernant l'évangélisation parce qu'ils ont fini par vouloir s'adapter. Non! L'apôtre Pierre a dit dans Actes 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. En aucun autre. » C'est le seul nom qui a été donné. On a entendu des gens comme Billy Graham dire que les bouddhistes ou je ne sais pas quoi, les autres là peuvent aussi être sauvés. L'essentiel, c'est d'avoir une conscience. Actes 4, 12 est clair. Ésaïe 53 est clair. Seul Jésus donne sa vie. Quiconque refuse Jésus est perdu. C'est pourquoi nous devons présenter Jésus aux gens. Parce que c'est Jésus qui a travaillé à la croix pour le salut de leurs âmes. Ce n'est pas notre éloquence. Ce ne sont pas nos miracles. Même si nous aimons les miracles, même si nous aimons voir Dieu se glorifier, mais c'est Jésus qui a fait le travail. Nous devons présenter aux gens Jésus. C'est lui qui a réglé le problème du péché. C'est lui qui est venu réconcilier l'homme à Dieu. Il est venu nous rebrancher. Mais bien aimé, le problème, pourquoi nous sommes parfois déstabilisés? Parce que nous lions le salut à la résolution de tous les problèmes terrestres. Or, le salut, ce n'est pas cela. Le salut, c'est que tu es rebranché au plan de Dieu. Tu n'étais plus branché, tu étais débranché. On te rebranche au plan de Dieu. Si le salut, c'était la résolution de tous les problèmes terrestres, Jésus n'aurait pas eu lui-même le salut. Puisqu'on a vu comment il a été crucifié, comment on s'est moqué de lui. Combien de gens n'ont-ils pas résisté à Jésus malgré ses miracles? Et les apôtres et les autres. Non, le salut, c'est que tu es rebranché au plan de Dieu. Quand Jésus dit « Je suis venu donner la vie en abondance », une autre manière de le dire, « Je suis venu donner la vie totale ». La vie totale. La vie complète. Parce que la vie que nous avons sur terre est partiel. Que tu aies 50 voitures, c'est partiel. Ça va passer à un moment donné. C'est partiel, c'est petit. Jésus est venu donner la vie complète. Et cette vie complète a une construction terrestre qui n'est pas forcément l'image physique de ce qui va se passer au ciel, qui peut être parfois une contradiction. Tu peux te retrouver dans la persécution. On te coupe, on te brise la jambe. Mais tu es quand même rebranché. Tu as la vie totale. Et un jour, cette vie totale manifestera sa gloire clairement. Mais en attendant, on peut avoir des difficultés qui nous préparent à cette vie totale-là. Des difficultés dont Dieu se sert pour le plan qu'il a de donner la vie totale aux humains. C'est pourquoi nous devons changer, en tout cas revenir à la Bible telle qu'elle expose les choses. C'est Jésus qui est le salut. C'est lui qui est le salut. Nous devons présenter Jésus. C'est Jésus qui fera le miracle qu'il faut. C'est Jésus. Vous savez, j'ai écouté un témoignage d'un musulman d'origine. Bon, il n'était pas non plus musulman à 100%, mais il est d'un pays musulman, c'est un musulman d'origine, qui a fait un accident. Tout son corps était ses jambes étaient paralysées. Et quand le chrétien lui a parlé de Dieu, il a dit, ben, je connais un vrai docteur. Mais cet homme, quand il est venu à l'église, il n'a pas été guéri. Mais il s'est converti quand même. Amen. Pourquoi il s'est converti? Parce que ces gens-là lui ont présenté Jésus. Jésus a sauvé cet homme. Il a réalisé, au fait, cet homme-là, quand il a entendu le message de l'Évangile, il a voulu être rebranché à Dieu. Il a oublié qu'il était venu chercher un docteur. Il pensait même qu'un jour, on va le présenter à ce docteur-là, fameux docteur. Or, dans leur idée, quand il leur disait « Nous connaissons un vrai docteur », il parlait de Jésus. Mais lui, quand il vient, il entend le message. Il dit « Je vais être rebranché à Dieu ». Il a réalisé le but de la vie d'un homme, c'est retrouver son Dieu. Bien-aimé, les gens les plus mauvais ont parfois cette soif-là de retrouver Dieu. Mais nous, on ne sait pas. Dieu connaît les cœurs. Qui pouvait penser que cet homme-là, qui a fait 14 ans chaque nuit pendant 14 ans, il fallait qu'il réveille sa femme. Changement de position. Vous imaginez? Tu ne peux pas changer de position tout seul. Fallait qu'il, pendant 14 ans, il fallait qu'il réveille sa femme. Changement de position. Il ne lui restait plus que le suicide. Mais le jour où il entend l'évangile, il ne demande même pas la guérison. Il embrasse le Seigneur Jésus. Et quelques jours plus tard, il se réveille. Les orteils commencent à bouger. Et il se lève de son lit. Amen. C'est le rebranchage qui est important. Ce n'est pas ce qu'on peut donner à quelqu'un, ni l'argent. Ni... Si on peut, on aide. Si on... Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est que les gens soient rebranchés à Jésus. C'est ça qui est important. Il y a des gens qui vont pleurer autour de nous. Envoie-moi ceci, envoie-moi cela, je manque de ceci. Si Dieu fait grâce, on aide. Si Dieu fait grâce, on fait du bien humainement. D'ailleurs, on doit le faire parce qu'on est des enfants d'en haut, des enfants de bonté, d'amour. Mais c'est Jésus, quand il te rebranche, que tu reçois la vie complète, la vie totale, une vie qui peut commencer difficilement sur terre et aboutir avec la gloire éternelle au ciel. Ce qui compte, c'est la vie totale. De sorte que le diable ne nous déstabilise pas en nous disant « Mais oui, mais qu'est-ce que toi tu vas dire aux gens ? Toi-même tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que toi tu vas dire aux gens ? T'es malade. Qu'est-ce que tu vas dire ? Mais toi, on te demande de présenter Jésus. On ne te demande pas de présenter la puissance, mais de présenter Jésus. Jésus se débrouillera pour sauver lui-même. Amen. Quand j'avais un rendez-vous, vous savez, justement dans ce témoignage-là, dans cet témoignage que j'ai écouté, il y a pareil des gens qui, quand le musulman leur a dit, bon, je vais vous poser des questions et puis on passera à la prochaine étape. Aïe, 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 ils ont commencé à se préparer avec les questions sur le Saint-Esprit. Comme moi, ça m'était arrivé au Maroc, une musulmane subsaharienne m'a dit, bon, Eric, je veux me faire baptiser, mais avant que je me baptise, il faut que tu me répondes à certaines questions. Alors, j'ai commencé à me torturer, à préparer sur le Saint-Esprit. Puisque comme elle venait à l'église quand même, elle entendait nos propos, j'ai commencé à réfléchir sur tous les propos qu'on cite quand on loue Dieu, quand on chante, quand elle va poser sur le Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais donner comme réponse quand elle va poser. Bien-aimé, arrivé sur le moment de la discussion, ben, toutes les questions étaient... Ce n'était pas des questions cherchant à compliquer. C'était juste pour s'approcher de plus en plus de Jésus. Et on est étonné. On dit, oh, mais moi je pensais, mais oui, il faut présenter Jésus. Jésus se débrouillera. Amen. Il se débrouillera pour convaincre. Mais toi, tu dois présenter Jésus. J'ai vu des gens, il y a un collaborateur, depuis que je lui ai dit que par rapport à mes souffrances, j'attends un miracle de Dieu. Il ne me parle presque plus. Un collègue au boulot. C'est le problème de Jésus. Il dit, mais tu crois en ça? Moi, je dis, oui, j'attends un miracle du ciel. Il a dit, tu crois en ça? Moi, je dis, oui, je crois en ça. Depuis, c'est la Sibérie. Froid total. Mais c'est le problème de Jésus. Moi, j'ai déjà présenté. Le reste, c'est lui. Bien-aimés, présentons Jésus. Il se débrouillera pour faire le reste. C'est très important. Il est venu pour le salut. Il est venu rebrancher. C'est comme ça que nous devons voir le salut. Nous ne devons pas voir le salut comme la résolution des problèmes des humains terrestres. C'est un retour à Dieu. On te rebranche au plan de Dieu. À partir de là, Dieu prend en charge la personne. C'est ça qui compte. Mais quand on voit le salut comme la résolution des problèmes, des questionnements, vous savez, on se dit, mais ah, tel que je connais cet homme-là, c'est un gauchiste, c'est un communiste, donc il doit avoir un tas de questions. Je crois que pour qu'on arrive au salut, il faut d'abord répondre à ces 125 questions-là. Mais non. Peut-être qu'il n'y aura même pas de question parce que Jésus a touché son cœur. Nous, on doit présenter Jésus. Jésus se débrouillera pour sauver. Bien-aimés, ça change. Et ça nous amène à la prière, à beaucoup plus prier plutôt que gesticuler. Parce que c'est Jésus qui touche. Vous imaginez un type comme l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, il demande à ce qu'on prie pour lui, pour qu'il sache comment présenter l'évangile. Mais attends, le nombre de gens que Paul a sauvés, mais il demande qu'on prie quand même encore pour lui. Parce que chaque cas est différent. Seul Jésus connaît les cœurs. Paul ne connaît pas les cœurs. On peut croire qu'un cas est difficile alors que ça va être plus simple que les autres. Nous devons présenter le Seigneur. Nous devons lui demander de l'aide. Aide-moi à te présenter, Seigneur. Parce que c'est Jésus qui se débrouillera pour convaincre et changer les personnes. Amen. Nous voulons que ce soir, bien-aimé, ça soit clair pour nous que le salut ne se trouve qu'en Jésus. Jésus seul a porté les péchés de l'humanité. Jésus seul est le Fils de Dieu qui a été envoyé pour libérer les captifs, les ramener à son Père. C'est lui le Sauveur. Et non seulement il nous sauve, il nous laisse pas orphelins, il nous donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui continue son travail en nous. Le salut est ainsi complet et total jusqu'à ce qu'on se retrouve au ciel. C'est lui dont tout homme a besoin. C'est de Jésus dont tout homme a besoin. Ce n'est pas de l'argent. En apparence, ça peut donner l'impression que c'est de l'argent. En apparence, ça peut donner l'impression que c'est du mariage. En réalité, tout homme a besoin de Jésus. Pourquoi on peut démontrer cela en exposant le fait que ce que réclame un, l'autre le rejette. Il y a un qui cherche le mariage, l'autre n'en veut pas. C'est la preuve que ce n'est pas le mariage qui règle le problème. Il y a un qui cherche l'argent, l'autre n'en veut pas. Quand je dis n'en veut pas, il en a, mais il est malheureux. Au point que l'argent ne lui dit rien. Donc, ce dont l'homme a vraiment besoin, même s'il semble lui donner l'apparence d'avoir besoin de liberté contre Dieu, vis-à-vis de Dieu, il a besoin de la drogue, en réalité, au fin fond de lui, le vide ne peut être rempli que par Dieu. Qu'il soit conscient ou pas, ça ne peut être résolu que par Dieu. C'est pourquoi nous devons, bien aimé, enraciner en nous que la solution, c'est recevoir Jésus-Christ pour la vie de tout homme. Qu'on ne nous distrait pas à vouloir apporter autre chose aux humains. Nous pouvons leur apporter l'amour du Seigneur. Nous pouvons leur apporter les biens matériels. Mais en priorité, c'est Jésus qu'on doit le présenter. Je n'ai pas dit qu'on embête les gens avec des choses répétitives. Non, que ça soit au fond de nous suffisamment fort que Jésus seul est la solution. Quand c'est suffisamment fort, il se sert de nous pour se présenter lui-même. Mais ça doit être fort en nous. Jésus seul est la solution. C'est très important. Il est le Sauveur de l'humanité. Que le Seigneur nous aide à le présenter. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a un chant que nous chantons en anglais. On va faire un effort pour essayer de le traduire en français. Ça dit « Everybody ought to know ». Tout le monde devrait savoir qui est Jésus. Tout le monde devrait savoir. Ce chant-là, ça va être une sonnerie de mon téléphone. Pour la vie, everybody ought to know. Tout le monde devrait savoir qui est Jésus. Parce que tout le monde souffre et a besoin de salut. Tout le monde devrait savoir. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à comprendre que les humains ont besoin de toi, Seigneur. Ils souffrent, même si parfois ils ne veulent pas montrer, même si parfois ils n'en sont pas conscients totalement, mais ils souffrent. Et toi, tu les vois souffrir. C'est pourquoi, papa, tu as envoyé notre grand frère, ton fils Jésus, pour nous sauver tous, pour sauver tous les humains. Et aujourd'hui, Seigneur, nous devons prendre conscience, aide-nous à prendre conscience que ce qui compte pour notre vie terrestre, c'est de présenter Jésus. Parce que Jésus est venu avec mission principale de sauver l'humanité. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à mettre de côté nos intérêts personnels, à mettre de côté la logique terrestre, à épouser une logique totale, de totalité, à regarder le ciel, donc à comprendre qu'il y a un avenir, Seigneur. À travailler pour la vie éternelle que tu es venu apporter à tout homme, Seigneur. Merci, Seigneur, de te manifester dans ta gloire, dans ta puissance. Que ton esprit, Seigneur, se saisisse de nous pour faire ta volonté sur la terre, qui est de te faire connaître afin que les gens soient sauvés par toi. Que ton esprit travaille, les chrétiens d'aujourd'hui, Seigneur, afin que nous ne cherchions pas à faire des publicités à la manière humaine charnelle, à vouloir épater les yeux des humains, mais plutôt à laisser ton esprit toucher leur cœur en te présentant eux, Seigneur. Merci, Seigneur.